Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invité de cet après-midi s'appelle
Didier Da Silva.
Il est écrivain. Avec lui, nous évoquons son dernier livre, L'ironie du sort, paru à l'Arbre Vengeur, et discutons de la dérive comme possible procédé littéraire. Il s'agira de la deuxième étape dans cette semaine entièrement imaginée autour du mot dérive, et ça commence. Une classe d'accueil a pour vocation, comme son nom l'indique, d'accueillir des élèves venus de l'étranger. Ils y évoluent en fonction de leurs besoins et de leurs progrès, plusieurs mois, un an et rarement plus. Qui a déjà passé un peu de temps ou beaucoup de temps dans ce genre de classe sait l'importance de cet entre-deux. Les élèves n'ont parfois jamais eu le moindre contact avec la langue française. Elle est un espace alors pour se tromper sans peur et pour trébucher à l'oral. Une équipe dédiée, formée, volontaire, suit le groupe classe dont la stabilité est un ingrédient important. Une récente circulaire prévoit pourtant la suppression de ces classes et une intégration immédiate dans les classes banales. C'est quand même bizarre qu'un ministère de l'Éducation ne prenne que si peu en compte les réussites pédagogiques de dispositifs qui ont fait leurs preuves. Il est 16h passé de 1 minute, vous écoutez France Culture et c'est pas la peine de crier. Sur le Polaroid du jour apparaît le secret d'un dessin. Sur le plateau du milieu, vers 16h20, la deuxième étape d'une semaine entièrement imaginée autour du mot « dérive ». Après avoir hier suivi quelques aventureux navigateurs en pleine dérive, en pleine mer et en pleine course parfois, on suit quelques aventureux auteurs et envisageons la dérive comme procédé d'écriture. Vers 16h50, nous écoutons des poèmes de Charles Reznikov et ensuite, il est 17h, d'habitude, normalement, et donc nous sommes rejoints par les équipes du 5 à 7. Mais pour l'instant, c'est le début et ici, le début, c'est une lecture à voix haute. Marilyn Canto déballe ses rayonnages littéraires pour vous cette semaine et aujourd'hui, elle choisit un extrait d'un pédigré de Patrick Modiano. On l'écoute.
Les mois suivants, mon père doit se résoudre à ce que je quitte pour toujours les dortoirs que je fréquentais depuis l'âge de 11 ans. Il me fixe rendez-vous dans des cafés. Il ressasse ses griefs contre ma mère et contre moi. Je ne parviens pas à établir entre nous une intimité. Je suis obligée de lui mendier chaque fois un billet de 50 francs. Qu'il finit par me donner de très mauvaises grâces et que je rapporte à ma mère. Certains jours, je ne rapporte rien, ce qui provoque chez elle des accès de colère. Très vite, vers 18 ans et les années suivantes, je m'efforcerai de lui trouver par mes propres moyens ces malheureux billets de 50 francs à l'effigie de Jean Racine, mais sans réussir à désarmer l'agressivité et le manque de bienveillance qu'elle m'aura toujours témoigné. Jamais je n'ai pu me confier à elle, ni lui demander une aide quelconque. Parfois, comme un chien sans pédigré et qui a été un peu trop livré à lui-même, j'éprouve la tentation puérile d'écrire noir sur blanc et en détail ce qu'elle m'a fait subir, à cause de sa dureté et de son inconséquence. Je me tais et je lui pardonne. Tout cela est désormais si lointain. Je me souviens d'avoir recopié au collège la phrase de Léon Blois. L'homme a des endroits de son pauvre cœur qui n'existe pas encore, et où la douleur entre, afin qu'il soit. Mais là, c'était une douleur pour rien, de celle dont on ne peut même pas faire un poème. La dèche aurait dû nous rapprocher. Une année, 1963, il faut raccorder le gaz dans l'appartement. Des travaux sont nécessaires. Ma mère n'a pas d'argent pour les payer, moi non plus. Nous faisons la cuisine sur un réchaud à alcool. Nous n'allumons jamais le chauffage l'hiver. Ce manque d'argent nous poursuivra longtemps. Un après-midi de janvier 1970, nous sommes tellement aux abois qu'elle me traîne au Mont-de-Piété, de la rue Pierre-Charron où je dépose un stylo, en or, avec plume de diamant, qui m'a été remis par Maurice Chevalier à l'occasion d'un prix littéraire. Il ne m'en donne que 200 francs, que ma mère empoche, l'œil dur. Nous avons connu pendant toutes ces années l'angoisse du terme. Les loyers de ces vieux appartements délabrés depuis l'avant-guerre n'étaient pas très importants à l'époque. Puis ils ont augmenté à partir de 1966 à mesure que changeait le quartier, ses commerces et ses habitants. Que l'on ne m'en veuille pas pour de tels détails, mais ils m'ont causé quelques soucis, vite dissipés, car je croyais au miracle et je me perdais dans des rêves balsaciens de fortune. Après mes rendez-vous navrants avec mon père, nous ne rentrons jamais ensemble dans l'immeuble. Lui rentre d'abord, et moi, selon ses instructions, je dois attendre quelque temps en faisant le tour du pâté de maison. Il cache à la fausse Mylène de Mongeau nos rendez-vous.
Marilyn Canto, vous lisez un extrait de « Un pédigré » de Patrick Modiano, qui est un livre autobiographique, rendant lui-même hommage à un autre livre autobiographique, celui de Georges Simenon. Est-ce que vous êtes autant attaché à ce livre qu'à l'œuvre de Modiano en général, ou est-ce que c'est sur ce livre que se concentre votre intérêt ?
C'est les deux. J'étais très touchée par ce livre, mais je suis très touchée par la démarche de Modiano en général, parce que je trouve qu'il y a une espèce de mélancolie et de recherche du mot juste, de la précision qui lui est propre. Et puis voilà, je trouve dans son écriture, il y a quelque chose de profondément émouvant et discret, jamais larmoyant, jamais toujours pudique. Et celui-là, il est particulièrement bouleversant, parce que je pense que c'est le plus authentiquement autobiographique, le plus officiellement autobiographique. Alors c'est vrai qu'il reprend cette phrase souvent, « Je suis un chien sans pédigré ». Et là, quand il dit « Voilà, je me tais, je lui pardonne », il y a une espèce de, comment dire, tendresse et de pitié qui se dégage du livre, qui est assez rare, alors que ce qu'il a vécu est assez triste. Et moi, voilà, j'aime beaucoup l'élégance de Modiano, et j'aime ses titres aussi, « Place de l'Étoile »,« Villa triste », j'aime beaucoup ses titres.
Comment procède-t-il dans ce livre, puisque vous dites qu'il est officiellement autobiographique, c'est-à-dire qu'il avance par fait, il avance par époque ?
Oui, il commence par vraiment, comme c'est un tableau vraiment de sa famille, de ses grands-parents, de son père, et c'est vraiment un portrait assez froid, assez, mais pas pour autant, par pudeur plus que par de ses origines, de son frère, de sa vie dans les pensionnats. Je pense qu'il y a assez peu de fiction. Il y a vraiment c'est comme un document froid, mais très précis et qui donne. Où il y a aussi de l'humour, mais pareil, c'est un humour discret, la fausse Mylène de Mongeau, moi ça me fait sourire, c'est une façon de dire les choses et en même temps voilà, d'en sourire. Donc non, je suis sensible à l'homme, quoi, vraiment, et je suis sensible à ce travail sur le même motif, la mélancolie, le passé, c'est comme s'il travaillait toujours le même motif, et ça aussi ça me touche.
Est-ce que vous diriez que ça vous touche parce que ça rejoint, par exemple, des points de votre travail, des films que vous faites, une façon d'être comédienne, d'être actrice ?
Oui, bien sûr, parce que c'est comme on sent cette espèce d'envie chez Modiano. D'abord la pudeur, ça j'espère, la retenue aussi. Et puis oui, le fait de pouvoir, comment dire, être à la fois dans l'intime sans être jamais dans l'impudeur. Moi, bien sûr, ça me touche pour ça aussi, parce que moi, je cherche ça, évidemment. Enfin, là, dans le film que j'ai réalisé, j'ai essayé ça. On peut parler d'une chose tragique et en même temps être sans pathos, de ne pas être dans le pathos, être dans une forme de retenue et j'espère d'élégance qui fait qu'on restitue des émotions, mais on ne prend pas en otage les spectateurs.
Quelle musique vous voulez entendre après un pédigré de Patrick Modiano ?
Alors ça, c'est de la musique soul et ça s'appelle Dee Clark, Dave Goddins, et c'est In the Very Tenderest Moments.
In these very tender moments, you're so sure that you're in love. But tomorrow, yes. The road.
Vous pouvez encore voir le film de Marilyn Canto, Le sens de l'humour, dans une salle, en attendant sa sortie en DVD, le 7 juillet chez Pyramide Film. Demain, Marilyn Canto poursuit son déballage de rayons littéraires et elle choisira pour vous un extrait de Plein de vie de John Fante. Mais pour l'instant, c'est une image dans la radio. Comme chaque jour, c'est le Polaroid. Elle entre, salue le patron, s'assoit à une table sans tourner autour, sans s'excuser, sans passer commande. Elle défait les boutons d'une petite veste à carreaux mauves, la dépose délicatement sur le dossier, et de son sac sort deux stylos noirs et un cutter. Sans regarder autour, sans vérifier, commence à gratter un coin de la table en bois, ça ressemble à l'école. Elle est patiente. Elle est visible d'emblée. Elle restera tard ce soir. Une fois gratté le coin de table qu'elle convoite, elle débute un dessin très précis, quelques lettrages. Un serveur sur lequel elle lève à peine les yeux dépose près d'elle un demi de bière brune et une théière fumante. Elle boit une gorgée de chaque, un peu de malt, un peu de thé, lève les bras au-dessus d'elle en colonne, tire vers le plafond crasseux du rad, souffle en les baissant et reprend son dessin là où elle en était. Le patron du bar rapporte une horloge de chacun de ses voyages et les accroche sans exception au-dessus de la table que la fille choisit systématiquement. Si bien qu'au-dessus de ses cheveux, c'est palpable, le temps passe. Elle ne laisse rien aller au détriment de son dessin, sinon une main qui traîne régulièrement, main droite relâchée et qui caresse le chien venu se nicher là. Toujours il y a quelqu'un au comptoir qui louche sur elle, qui regarde dans sa direction, qui voudrait savoir ce qu'elle dessine, mais ce qu'elle dessine est suffisamment fin et précis pour n'en pas livrer les détails à cette distance. Alors cela se passe toujours de la même façon. Un peu avant que le bar ne ferme et alors que la théière et le demi de bière sont juste terminés, elle se lève, elle salue tout le monde, et la personne qui la regardait au bar vient discrètement s'asseoir à sa place pour déchiffrer la table. Quel que soit celui qui déchiffre, quand il sort, il sourit.
It's mine of me. Seems that every time that I turn, I'm passing on pieces of me. Don't you know nothing comes free? What mom don't know has taken its toll on me. It's all I've seen that can't be wiped clean. It's hard to believe what it's meant of me.
Pour ce Polaroid, Miss Chanel vous faisait entendre un titre de Mac DeMarco. Passing Out Pieces. Nous avons deux invitations pour vous. La première, c'est ce soir au théâtre du Garde-Chasse au Lila, en Seine-Saint-Denis. Il est présenté en avant-première le documentaire Kings of the Wind and Electric Cranes. C'est le dernier film de Cédric Dupire et Gaspard Quens. Une plongée dans la foire de Sonepur, dans la région du Bihar, en Inde. Et la foire de Sonepur, en Inde, s'ouvre tous les ans, le jour sacré de pleine lune. Il se trouve que la pleine lune, c'est demain. Donc, hasard et coïncidence, séance gratuite ce soir, réservez donc vos places sur cinéma93.fr. L'autre invitation court jusqu'au 25 mai, c'est au Théâtre 13 à Paris cette fois, et c'est pour voir le laboratoire chorégraphique de rupture contemporaine des gens. C'est visible jusqu'au 25 mai, je l'ai dit, c'est une création collective, c'est de l'art et du cochon, dit la promesse. Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, c'est la deuxième partie de notre émission et c'est aussi le deuxième moment d'une semaine imaginée autour du mot « dérive ». Hier, nous évoquions la dérive en pleine mer, dérive forcée par des avaries techniques et qui laisse les marins et les bateaux presque livrés aux éléments. Si la dérive est une façon de s'éloigner du cap fixé au départ, elle garde toujours la mémoire, la trace, même en creux, une forme de nostalgie de ce cap de départ. La dérive est mélancolique, si bien que l'on peut facilement penser qu'elle cherche en fait à retrouver ce cap, à le rejoindre, et si possible, de manière fortuite pour ne pas se dédire. Voilà une hypothèse comme une autre pour attraper le livre dont il est question aujourd'hui et qui est un rouleau sur une plage des Landes, quelque chose passant sur vous, vous remuant suffisamment pour qu'une fois passé, vous ne soyez plus sûr exactement de son espèce. C'est donc tout de même un livre qui saute de caillou en caillou, souvent de naissance en mort ou de menus détails d'existence, et qui va, ce livre, la cartographie est imprécise, d'un plongeon de machine à écrire censé maquiller un crime jusqu'à l'île au trésor de Stevenson, lu par un enfant de 8 ans. Quelques destins accrochent plus longtemps que d'autres, celui d'Eizo Yamamoto qui ralentit le texte à lui tout seul et le creuse, celui d'Eric Satie qui en écrit la partition secrète, celui d'Alfred Hitchcock, sorte de parrain bienveillant prêt à dégainer du proverbe ou l'idée d'un huis clos, et celui enfin de Stevenson déjà cité. L'ironie du sort est un livre qui, s'il est conçu comme une seule et même vaste dérive, va vite. Le livre ou l'auteur, savent les catastrophes imminentes, l'écroulement ou l'incendie des villes, la déliquescence des corps. Il s'agit alors de parler avant la fin ou d'atteindre la fin au plus vite pour pouvoir recommencer. Didier Da Silva, vous publiez L'ironie du sort aux éditions L'Arbre Vengeur. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
On va commencer par ce titre, puisque nous choisissons de manière un peu arbitraire d'accoler le mot dérive, ça nous arrange bien, au livre que vous écrivez, L'ironie du sort, qui ne contient pas nécessairement l'idée de dérive, pas en tout cas dans le programme que donne le titre. Est-ce que vous le dédiriez pour autant ce mot dérive ou est-ce que vous l'acceptez volontiers ?
Je l'accepte volontiers, déjà parce que des métaphores aquatiques... Des images aquatiques m'ont accompagné dans l'écriture du livre. La première image du livre, c'est celle d'une machine à écrire qui tombe dans une lagune et qui produit des ronds concentriques. Et puis la métaphore classique du fleuve du temps, aussi quelque chose que j'avais dans le coin de la tête. Oui, et puis de toute façon, la dérive, c'est quelque chose qui me parle parce que j'avais le cap, j'avais le point d'arrivée, mais je ne savais pas vraiment comment j'allais l'atteindre au moment de commencer l'écriture du texte.
Et il n'y avait pas de chemin désiré pour arriver à ce cap-là, ni de durée préconçue pour atteindre ce cap-là?
Oui et non, j'avais des désirs, il y en avait plusieurs qui étaient là présents au moment de m'y mettre.
C'est-à-dire passer par des points pour parler concrètement?
Pour parler concrètement, oui, il y avait des points par lesquels je voulais passer. Mais dans quel ordre et quelle importance ils allaient prendre, je ne savais pas trop. Les choses se sont précisées au milieu de l'écriture du texte, mais vraiment au moment de commencer, c'était très très flou et c'était fait partie du plaisir que j'ai pris à l'écrire.
Hier, on parlait de dérives qui sont des dérives subies quand un élément ou plusieurs éléments d'un bateau se brisent et obligent les marins et les bateaux ou les équipages à se laisser aller à la force des vents et à la force des eaux. Les trois marins qui étaient en plateau hier nous disaient que ce n'était absolument pas quelque chose qu'ils enviaient ni quelque chose qu'ils aimaient vivre. Est-ce que vous avez pris, vous, plaisir à vous laisser aller dans cette dérive d'écriture?
Infiniment. Oui, c'était un grand plaisir et une jubilation même constante. Enfin, c'est l'état dans lequel j'étais pendant toute la rédaction, de pas savoir où j'allais, pas vraiment, parce que quand même petit à petit ça se précisait, mais de pas savoir ce que j'écrivais vraiment, quelle forme, qu'est-ce que c'était que ce texte. C'était pas un roman, c'était pas un essai, c'était. C'était un texte dont la forme était inconnue, qui s'inventait au fur et à mesure. Et ça, c'était un grand plaisir. Oui.
Est-ce que vous savez ce que vous avez écrit aujourd'hui?
Pas vraiment. J'ai plusieurs hypothèses, mais je dirais que c'est sans doute d'abord un autoportrait. Peut-être aussi un poème, mais sinon, non, je ne saurais pas vraiment où le ranger. Je pense que c'est très bien comme ça.
S'il y a dans la définition du mot dérive l'idée d'être un peu impuissant, ou en tout cas de lâcher quelques forces directrices et de se laisser faire par des éléments extérieurs, dans le cas du livre que vous avez écrit, ce serait quoi les éléments extérieurs qui viennent vous bousculer, qui viennent vous faire changer de direction, qui viennent vous faire prendre un nouveau cap?
Très clairement le hasard, auquel je me suis confié totalement pendant l'écriture. C'est-à-dire que je savais que je pouvais compter sur lui. Et donc, j'avais quelques points, voilà, quelques figures que je voulais intégrer dans le texte. Comme c'est un livre qui fonctionne beaucoup par hasard et coïncidence, j'ai mené quelques recherches pour lier certains événements entre eux, beaucoup sur Internet, et le hasard a toujours répondu présent à mes appels du pied. Si j'avais besoin d'un fait matériel pour joindre deux éléments vraiment éloignés entre eux, j'arrivais à trouver le joint.
C'est pas exactement du hasard quand vous arrivez à trouver. Si on parle très concrètement de ce texte, oui. C'est une existence, l'existence d'un personnage A ou d'une ville A qui est développée l'espace de quelques brefs lignes ou bien d'un paragraphe et en un point va rejoindre ou initier, donner le coup de départ pour une autre existence, etc., etc. Donc on va aller de zone en zone et ces zones sont ou bien des êtres ou bien des lieux. Ça va à peu près quand je dis ça.
Oui, tout à fait.
Pour faire ces jonctions, finalement, vous les cherchez, les points de jonction, ou vous les laissez venir à vous?
Alors, c'est les deux. Enfin, il y en avait beaucoup que j'avais déjà repéré au cours de mes lectures, enfin, qui m'avaient frappé. Après, il y en a certaines que j'ai cherchées et d'autres qui sont venues à moi au cours de mes recherches, sans que, enfin, je cherchais autre chose et puis je suis tombé sur elle. Mais j'en ai intégré dans le texte la moitié. Enfin, si j'avais dû tout mettre, ça aurait été un texte beaucoup plus long et un peu fastidieux. Il fallait. Après, c'était un choix. Voilà. Enfin, c'était une affaire de choix constamment.
C'est-à-dire, par exemple, des personnes qui vont naître le même jour ou qui vont passer dans une même taverne ou qui vont composer une œuvre tel jour et peindre un tableau tel jour. Ça va être ce genre de choses.
Oui, tout à fait. Et puis, énormément de rimes, d'échos, de coïncidences thématiques, de pensées conjointes. Enfin, vraiment, constamment me venaient dans mes recherches des choses qui, des hasards trop beaux pour être vrais. Et donc, c'était un Noël perpétuel.
Avec un effet de fascination ou avec un recul qui donnerait du sens au mot ironie que vous choisissez pour votre titre ?
Oui, alors effectivement, l'ironie est présente dans le titre, mais je ne pense pas que ce soit un texte ironique, enfin pas avant tout. C'est plutôt une antiphrase, je ne sais pas. Mais alors la fascination, oui, elle est présente et je pense qu'elle est... Elle était un moteur, mais me lancer dans ce texte, c'était aussi une entreprise de... Comment dire ? C'était une façon de me moquer de ma propre propension à vouloir raccorder les éléments entre eux. Enfin, c'est le modèle classique de la paranoïa, enfin, dans sa version légère et mainstream, pas pathologique. Mais voilà, on a tous besoin de trouver un sens aux choses et à surdéterminer les événements. Voilà, j'avais tendance à m'en méfier. Et donc, à entreprendre ce texte aussi, c'était me moquer un peu de cette propension et voilà, de l'organiser d'une façon tellement délirante. Que voilà, il y avait une forme d'humour, donc l'ironie elle est là, elle est surtout par rapport à moi-même et à cette fascination parfois un peu bête qu'on peut avoir devant les coïncidences, puisque les coïncidences ne veulent dire quelque chose que dans le du moment qu'on leur accorde, voilà, qu'on les. Parce que tout ce, enfin, comme je l'ai dit à un moment dans le texte, tout dépend du champ qu'on circonscrit, mais plus on élargit le champ jusqu'au à l'univers entier, tout se tient nécessairement, puisque tout fait partie du tout. Mais voilà, c'est quand on réduit le champ que les coïncidences apparaissent. Mais sinon, voilà, y a une solidarité des choses, des événements qui est naturelle et qui n'appelle pas de commentaires.
Les vexations d'Éric sont conçues comme une pénitence. On pourra se les jouer 840 fois de suite, indique sans l'ordonner une note de l'auteur en tête de la partition. mode d'emploi, précisant que dans ce but, il serait bon de se préparer au préalable et dans le plus grand silence par des immobilités sérieuses. Le fait est que la chose se prête au ressassement, avec son air de ne pas finir. Cette harmonie errante et accablée de ne pas retomber sur les pieds d'un accord parfait. Il s'agit là d'une petite machine excellemment pensée pour tourner en rond. Enveloppée de lenteur et de dissonance, envoûtée pour peu qu'il y soit disposé, le pianiste, même débutant, qui s'infligerait cette punition, des dièses arbitraires et d'inutiles bémols, rendent le texte difficile à lire, la marque du démon encore, mais sinon c'est un jeu d'enfant. Le pianiste donc finirait sans doute par entrer en transe, voire par connaître un genre d'extase, d'autant plus s'il jeûne, tel un derviche tourneur sans jambes, égrenait le chapelet entier, exigeant plus ou moins 24 heures. Les vexations posent plusieurs questions. Est-ce la bande-son du purgatoire ou de l'enfer? Pourquoi 840 et pas 13 000? Parce qu'il faut bien finir? Satie les a-t-il joués lui-même sur un piano faux, dans l'ombre humide de l'étroit Trucorto, étourdi de visions occultes, ou bien la page écrite a-t-il amèrement ri et n'y a-t-il plus pensé avant de retrouver ses amis au bistrot et de se plaindre de Suzanne, qui l'appelait « mon petit biki ».
Didier Da Silva, on entend Cyril Baer lire un extrait de votre texte « L'ironie du sort » et c'était précédé des fameuses vexations d'Éric, même si le nom n'est pas précisé dans l'extrait qu'on a choisi, c'était Éric Satie. J'ai dit dans l'introduction qu'Éric Satie était l'un des destins qui courait un peu régulièrement en dessous du texte et qui affleurait de manière beaucoup plus visible à certains moments, comme une possible partition secrète de ce texte. On l'entend là, une invitation au ressassement, quelque chose qui tournerait comme un derviche tourneur, ou bien vers l'infini, ou bien en se jouant de la fin. Quel est le rôle d'Éric Satie et des vexations dans la composition de ce texte?
Le rôle d'Éric Satie, il est effectivement secret, mais essentiel. C'est une longue histoire entre moi et Éric Satie. C'est un personnage et un artiste qui me fascine depuis l'adolescence, qui m'a toujours accompagné. Le point de départ, même si dans le texte c'est donc ce crime de en 1924. Si je suis venu à ce crime de Léopold Delubbe, c'est à cause de Satie. C'est parce que il est mort le 1er juillet 1925. Cette date, elle était importante pour moi. Et cette date du 1er juillet, j'ai découvert par hasard, enfin par mes recherches, que c'était celle aussi de la naissance de Farley Granger. Farley Granger, qui est un comédien qui avait le rôle principal dans le film La Corde Hitchcock, inspiré par l'histoire de Léopold Delubbe. C'est par le biais de cette date que je suis venu à ce fait divers et qui a ouvert l'imaginaire. Ce détail de la machine à écrire tombant dans l'eau m'a ouvert le texte et m'a permis de l'amorcer. C'est une figure qui est dans l'ombre du texte parce que je me suis forcé qu'il ne soit pas trop présent. Enfin, il apparaît dès les premières pages, puis ensuite à la fin, peut-être un petit peu au milieu, je ne suis pas sûr. Mais parce que ça fait plusieurs années que j'essaye d'écrire autour avec Satie sans succès. Parce que c'est un personnage, vraiment fascinant, mais très difficile à appréhender, parce que j'ai beau la fréquenter depuis des années, je sais toujours pas qui c'était vraiment. Enfin, c'est un personnage vraiment énigmatique. Et Les Vexations, c'est une pièce qui m'a fasciné aussi depuis longtemps, que j'ai moi-même jouée quand j'avais une vingtaine d'années, pendant 840 fois de suite, qui fait donc à peu près 24 heures de piano. Qui est une pièce fascinante parce que c'est une musique étrange, comme on a pu l'entendre, à la fois extrêmement désolée, mais, mais qui permet une forme d'extase. Enfin, quand on la joue, vraiment, j'ai connu des moments d'extase, on peut le dire, de transe. Et en même temps, c'est peut-être une vaste blague. On ne sait pas du tout quelle pensée a présidé à sa composition. Et donc voilà, c'est une pièce mystique, oui, possiblement une fenêtre vers l'infini, et c'est peut-être juste une blague montmartroise voilà, d'un jeune fumiste.
Quand il écrit sur la partition, sans que ce soit un ordre, que ça peut être joué 840 fois, et que vous dites pourquoi pas 13 000, quand on lit le texte, on se dit voilà, il fait cette taille-là, le texte. Est-ce qu'il aurait pu faire 10 fois plus, 20 fois plus? Est-ce qu'il aurait pu exploser en volume, ce texte-là?
Il aurait pu, mais comme je disais tout à l'heure, son pouvoir de fascination, enfin son étrangeté, se serait dilué, voilà, c'est cette magie qui est presque une imposture, enfin voilà, de lier entre eux des événements et d'accumuler les coïncidences comme ça. Une coïncidence qui est troublante par définition, ce trouble, il se serait perdu parce que, évidemment, on peut lier tout et n'importe quoi. Et si ça avait été un texte de 10 000 pages, d'abord, ça aurait été peut-être un petit peu fastidieux à lire et on serait rentré dans quelque chose de conceptuel ou je ne sais que sais-je. Mais en tout cas, pour moi, c'était important que ce soit un texte bref, dense et que de ne pas lâcher le lecteur, que ça aille vite et qu'on n'ait pas le temps de se poser de questions, enfin, que, voilà, que tous ces hasards, qu'il y ait une nécessité qui soit, enfin, une illusion de nécessité qui soit créée. Donc il était nécessaire que le texte soit court, sinon le trouble n'aurait pas été possible.
Quand on évoque la dérive, et quand on évoque la dérive en littérature, on pense à Debord qui théorise cette dérive dans un texte qui est publié en 1954, puis en 1958, et où il met des bornes à cette dérive. Il dit qu'en gros, elle est possible, souhaitable, ou en tout cas, il la théorise entre un début et une fin, chose que vous aviez à peu près, le début et la fin. Et on a l'impression que ce sont deux choses, même si elles sont très classiques et très courantes, qui vous importent, ces débuts et ces fins. Nombreuses naissances sont narrées, nombreux écroulements, nombreux incendies, nombreuses disparitions tragiques, sordides, violentes. C'est comme si la fin était un endroit de fascination aussi, parce que ça vous permet à la fois de passer à quelque chose ou parce qu'en soi, c'est quelque chose qui vous fascine.
Oui, en soi, c'est quelque chose qui me fascine, effectivement, les fins. Les dernières œuvres, les derniers moments, les agonies. Bon, c'est une fascination, oui. Sans doute très romantique, mais c'est un moment de passage, effectivement. Enfin, les morts sont des naissances aussi. Mais j'ai pas de théorie particulière sur cette fascination. Enfin, c'est une fascination, c'est quelque chose d'inexplicable.
Sauf à questionner le statut de ce texte, à savoir est-ce qu'il conjure cette fascination? Est-ce qu'il va très très vite? Parce que vous l'avez dit, il faut que ce soit rapide et dense. Est-ce qu'il va très très vite pour arriver à sa propre fin et souffler? Ou est-ce qu'il va très très vite à la fin pour pouvoir recommencer ou bien un autre livre ou bien de réouvrir celui-ci? C'est vraiment les deux possibilités.
Oui, je pense que les deux sont valides. Le livre est clairement conçu, enfin comme un cycle. Enfin, on peut le reprendre au début. J'ai pas mal joué aussi avec des formes miroirs. J'avais l'idée de la spirale qui était importante pour moi aussi, du tourbillon, du cyclone, de l'œil du cyclone aussi, parce qu'il y a. Le livre va très vite, mais comme vous le disiez au début, il y a un moment plus ou moins au milieu du livre où les choses se ralentissent autour de la figure de ce moine poète japonais qui est le seul qui a une vie dont je déroule la vie dans son intégralité et qui est une vie heureuse, enfin par rapport aux autres personnages qui ont des vies marquées par l'échec, la maladie, des tourments divers.
Thank you.
quand elle ne s'écroule pas, les villes puent. Alors qu'à la campagne, on respire. Si jamais quelqu'un en sut quelque chose, c'est bien Eizo Yamamoto. 3 ans après la destruction de Lisbonne, quel jour au juste on l'ignore, il naît dans la province d'Echigo. De nos jours, on dit Niigata, sur la côte ouest du Japon, juste en face de l'île de Sado. À part la poésie à laquelle l'initie au collège des Trois Pics, un praticien confucéen, Eizo aime dormir tard et prendre des bains chauds. La gestion des affaires publiques ne lui dit absolument rien. Il n'y a pas 36 solutions pour y échapper, et à 18 ans révolus, il dit vouloir se faire moine zen. Personne n'y trouve rien à redire, on ne lutte pas contre ce genre d'appel, surtout pas son père, qui l'envie secrètement et lui souhaite bon vent. Il s'épanouit au monastère, il a pris soin d'en choisir un qui prône spécialement le zazen, donc la méditation assise, et il se montre doué pour la calligraphie, tâche où l'on est assis aussi. Le monastère est au bord de la mer, à Amazé, pas loin de chez lui, et à chacune de ses visites, c'est un crève-cœur de voir son père, harassé de conflits et d'intrigues, devenir plus aigri, plus amer. Vite, il retourne dans sa cellule. Sa paix royale, sa solitude, ses chères heures de simple présence.
Didier Da Silva, Cyril Baer lit un deuxième extrait de votre livre et s'engouffre dans le creux que vous créez et que vous évoquiez à l'instant, à savoir la vie déroulée d'Eizo Yamamoto, ce moine poète japonais. Comment est-ce qu'il arrive, ou comment vous laissez-vous arrêter, comment arrête-t-il la dérive de ce livre-là, ce Yamamoto ?
Ça, c'était vraiment un désir que j'avais dès le départ. Enfin, c'était un... d'arrêter ce tourbillon, ce mouvement par ce personnage qui représente l'idéal, on va dire, pour aller vite, oui, un personnage qui soit en paix, qui soit... Il est, un de ses surnoms, il en avait eu plusieurs, mais c'était le grand idiot, et voilà, c'était, je suis assez attaché à cette idée.
Ou la lumière allumée en plein jour.
La lumière allumée en plein jour, tout à fait. Une chose qui ne sert à rien, donc... Et oui, c'est une longue fascination que j'ai aussi pour la poésie japonaise et puis ces figures voilà, complètement hors du temps, hors de la société, qui sont dans la contemplation. Et je me sentais autorisé à développer cet idéal, étant donné qu'il était entouré de choses effroyables. Voilà, il avait sa place. Mais d'ailleurs, il n'apparaît pas seul. Enfin, je tresse sa vie à celle de Benjamin Constant, qui est son négatif. Enfin, et pour moi, c'est un poète aussi, mais seulement un poète voilà, qui est rongé par l'ironie, par une forme de cynisme. Ils sont exactement contemporains, enfin à quelques années près. Il meurt à peu près au même moment. Et l'un et l'autre me fascinent autant. J'avais envie de... à ce moment-là du livre, de tresser ces deux vies à... contemporaine, mais à l'autre bout de la planète, l'une de l'autre, qui sont deux formes de vie possibles, dans lesquelles je me reconnais autant.
Quand vous dites que vous vous sentez autorisé, ouais. Précisément, on a vraiment l'impression que Yamamoto avance en même temps que vous faites avancer Benjamin Constant, et que c'est quasiment un modèle mathématique, et que le livre lui-même est quasiment une sorte, non pas d'équation, mais de fonction à variable, et que vous faites progresser ça comme progresserait une fonction avec un X variable, qui serait vous, ou qui serait le hasard, ou qui serait la vie. Est-ce qu'il y a eu, pour nourrir cette dérive littéraire, des lectures de votre part, des lectures mathématiques, des lectures en rapport avec vraiment une construction d'un livre qui relèverait de ça ?
Alors, absolument pas. S'il y a bien quelque chose auquel je suis parfaitement hermétique, ce sont les mathématiques.
Et pourtant, vous avez parlé de symétrie tout à l'heure. Alors, c'est de la géométrie plus que des mathématiques.
C'est vrai, c'est vrai. Il y a l'idée du miroir, mais plutôt emprunté à Borges, choses comme ça, à la mystique. Blois est aussi assez important dans le texte et développe cette idée de miroir. Mais alors, les mathématiques, vraiment... Non, j'ai toujours eu une sainte horreur de ça. Mes cauchemars étaient peuplés de chiffres quand j'étais enfant. Et pourtant, il y a cette fascination pour les dates, oui, qui court dans le texte, tout à fait. Mais ça, c'est lié au temps, oui, aux dates, à la superstition, mais pas vraiment aux mathématiques, non.
Est-ce que vous étiez, par exemple, extrêmement attentif à l'idée d'une symétrie parfaite ou c'est juste l'idée de la symétrie qui vous séduisait?
Non. La symétrie n'est pas parfaite. Non, de toute façon, l'idée aussi, c'était de donner l'illusion de quelque chose d'extrêmement concerté. Mais effectivement, j'étais dans la dérive dans l'écriture. Enfin, j'étais dans l'approximation. Et après, c'est donner l'illusion de quelque chose de très pensé. On pourrait imaginer que j'avais des graphiques, un plan détaillé. Mais non, pas du tout. Ça s'est composé à l'improvisade tout le long. Même si plus j'avançais, plus je savais plus ou moins où j'allais. Mais par contre, je tenais à ce que dans le travail, c'était des repentirs constants pour raccorder les choses entre elles et organiser ces symétries. Mais il y avait pas de pensée froide et mathématique qui a présidé à l'écriture.
Qui dit mathématique dit pas forcément froid.
Non, ça peut être très chaud, tout à fait. Mais...
Quand vous voyez ce tout s'organiser selon des hasards qui sont pas forcément joyeux, mais en tout cas qui font sens, est-ce que ça vous entraîne vers un endroit de la vie où le hasard est le hasard et finalement vous avez plus vous écrivez, plus vous regardez ça avec un sourire, ou au contraire est-ce que ça vous déplace du côté beaucoup plus paranoïaque, beaucoup plus attentif à la réalisation de hasards qui font sens et qui s'enchaînent?
Non, alors je pense pas que l'écriture soit une thérapie, enfin ça ne devrait pas l'être, le fait est que ça m'a plus ou moins guéri, l'écriture de ce texte, des tendances paranoïaques, oui. Donc c'était un bon rapport de ce côté-là, quoique je remarquais... que l'extrait de Modiano qui a été lu au début de l'émission, il était question de Léon Blois et de l'année 1966 qu'on peut retrouver dans mon livre. C'était quand même une coïncidence étonnante. On ne parle pas de Léon Blois tous les jours non plus, je pense.
Et c'est pour ça que vous souriez en début d'émission. Je vous ai entendu sourire.
Et donc si j'étais encore paranoïaque, je me demanderais qu'est-ce que c'est que ça. Mais non, maintenant j'accueille ça de façon assez zen.
Tout à l'heure, vous avez dit que vous connaissiez, et vous avez répété à plusieurs reprises, que vous connaissiez ce point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est Stevenson, L'île au trésor, et c'est un enfant de 8 ans qui lit L'île au trésor de Stevenson. Un enfant de 8 ans où le narrateur dit « je », donc on peut considérer que c'est vous. Si c'est un autoportrait, pourquoi tant de temps? Pourquoi tant de détours? Pourquoi tant de cercles concentriques pour arriver à un point, si c'est ce point qui vous concerne?
Alors, il y a un double focus à la fin. Il y a Stevenson, et puis juste avant, il y a le passage de Julio Cortázar et de sa compagne sur une autoroute que je connaissais très bien quand j'étais enfant, qui est de l'autre côté de mon village. Et il y avait cette coïncidence spatiale qui m'a fasciné dès que je l'ai découverte, de penser que quand j'avais 8 ans, cet écrivain qui a beaucoup compté pour moi aussi dès l'adolescence, Cortázar, avait été à 10 km et puis sur une route vraiment très familière pour moi, qu'on empruntait constamment avec mes parents. Et alors pourquoi tous ces détours? Je dirais que mes précédents livres étaient plus ou moins autobiographiques, où j'étais très présent. On va ranger ça très hâtivement dans la catégorie de l'autofiction. Et avec l'ironie du sort, j'ai eu ce grand bonheur de ne pas parler de moi. et en même temps, même si paradoxalement ou pas, c'est le plus personnel de mes textes. C'était important pour moi de de quand même être présent à la toute fin, avec cette image très ténue de cet enfant de 8 ans. Et oui, c'était une façon aussi de me moquer, de sourire de mon parcours d'écrivain.
Parce que vous n'êtes absolument pas absent dès lors que vous choisissez de mettre en lumière tel ou tel épisode d'une vie,
oui, tout à fait,
tel
non,
ou tel rouage.
Comme je disais, c'est un autoportrait. Hein. C'est la somme de mes admirations, de mes fascinations.
Est-ce qu'il est hasardeux d'avoir aussi trouvé dans ce livre-là, parce que forcément on emprunte le pas et on devient des lecteurs à la dérive qui relevons nous aussi des rouages qui font sens, d'avoir trouvé plein de moments où finalement ce livre s'auto-théorise en citant Satie qui parle des vexations, mais aussi Stevenson qui parle de l'art d'écrire, de la façon de regarder des hasards, de Hitchcock pensant son cinéma. On a l'impression qu'il y avait plein d'endroits où vous raccrochez en disant là, c'est aussi comme ça qu'ils ont fait.
Oui, oui, tout à fait. Oui, il y a des petits modes d'emploi, enfin des parenthèses d'auto-réflexion sur la manière dont le texte se construit. C'est aussi une histoire de la forme, enfin une histoire des trucs formels qui ont été trouvés. Pour dire le chaos, pour l'organiser.
Quand vous parlez de Cortázar, on peut aussi parler de Marel et de l'organisation aléatoire par chapitre qui laisse au lecteur la possibilité de rentrer par un côté ou par un autre. Il y a aussi dans ce livre un questionnement de ce que c'est qu'écrire un livre, et de qu'est-ce qu'on veut faire vivre au lecteur et qu'est-ce qu'on a envie de vivre soi en tant qu'auteur.
Oui, bien sûr.
Ça ouvre sur quelle perspective en tant qu'auteur pour la suite pour vous en termes d'écriture? Après ce livre-là, c'est compliqué d'imaginer. Je ne sais pas ce qu'on peut imaginer.
Oui, je ne sais pas. Je suis assez excité par la suite, en fait. Enfin, ça m'a libéré vraiment de me lancer dans une forme inconnue, enfin une forme qui s'invente elle-même au fur et à mesure. Ça a plutôt ouvert des possibles. Alors, je ne sais pas vraiment quelle forme j'ai emprunté. J'ai des fantasmes, des ambitions de pavé. Des choses qui en imposent. Je ne sais pas du tout quelle forme ça va prendre exactement, mais en tout cas, oui, c'était un appel d'air important pour moi. Enfin.
Depuis hier, lundi et jusqu'à vendredi, nous feuilleterons, si le mot est français, mais il me semble que oui, le recueil Rythme 1 et 2 de Charles Reznikov. Et c'est la voix de Véronique Vella qui nous permettra de le faire dans une traduction d'Eva Antonikov et de Jill Silberstein. Le recueil est paru en 2013 aux éditions Héros Limite. On écoute Véronique Vella.
J'entre dans l'étang aux truites comme dans la fraîcheur d'une crypte. À mon tour, je deviens de sang-froid, sans voix. Le mort gît dans la rue. On couvre d'un sac sa tête ensanglantée. Il brune. Trottoirs et caniveaux sont noirs. Sa femme, elle, à sa fenêtre, le repas prêt, la table mise, attend qu'il émerge de la pluie. Ils firent sa tombe si profonde. Nulle voix ne se coule jusqu'à elle. En elle, nulle effusion de joie quand sa fille chante. Et paisible elle demeure quand sa fille pleure. Sur le pont de Brooklyn, je vis un homme rendre l'âme, rien de plus que s'il s'agissait d'un moineau. Au-dessus de nous, Manhattan. Dessous, la rivière s'étalait jusqu'à rejoindre mer et ciel.
Mignonne lettre, douce lettre,
Didier Da Silva, pour donner l'image à ceux qui ne peuvent pas la voir, vous étiez presque capable de chanter ce qu'on vient d'entendre absolument par cœur. Donc vous êtes forcément en mesure de désannoncer ce qu'on vient d'entendre.
Oui, c'était Ronsard à son âme de Maurice Ravel, sur un poème de Ronsard.
Pourquoi nous avoir proposé parmi plein d'autres choses ce titre à écouter pour la fin d'émission ?
Ah, c'est une musique superbe, c'est une des dernières œuvres qu'a composé Ravel.
Là encore ?
Oui. Des dernières choses. Voilà, il avait fait attention de composer une chose au piano très facile qui puisse jouer tout en fumant d'une seule main pour pouvoir fumer le cigare de l'autre. Et donc, oui, ce côté un peu ironique et dandy, alors que c'est une musique absolument bouleversante, de nudité, d'émotion. Voilà. Ravel apparaît une seconde dans le
texte,
mais vraiment. C'est à la fois un clin d'œil à Ravel et aussi un clin d'œil à Jean Echenoz qui compte beaucoup pour moi.
D'ailleurs, on y pense assez souvent, Jean Echenoz, et à Ravel de Jean Echenoz, dans la très brièveté de ce texte-là, même s'il est très épais. On y pense notamment quand vous citez Stevenson qui dit que le plus grand art, c'est d'omettre, et que s'il pouvait se défaire des détails, il ferait du journal, je crois, l'Iliade d'Homère. Est-ce que parfois vous auriez envie, vous avez eu envie pendant ce texte, de vous défaire de tous ces détails et d'oublier pour arriver à quelque chose de ténu ?
Oh, mais je crois que c'est assez ténu quand même.
Ça l'est, mais c'est touffu.
C'est touffu, c'est vrai, touffu, mais oui, danse. Enfin, j'aime les textes de danse. Enfin, oui, c'est vrai qu'il y a ce mouvement paradoxal de profusion, mais en même temps, je crois que c'est resserré, qu'il n'y a pas de remplissage.
La ligne mélodique est claire.
Oui, voilà, c'est ça. C'est l'école française.
L'ironie du sort, c'est paru aux éditions L'Arbre Vengeur. Merci beaucoup Didier Da Silva d'avoir
Merci
été avec
à vous.
Nous. Pour écouter cette émission sur le site franceculture.fr, vous vous laissez dériver. Aux manettes aujourd'hui, c'était Vincent Ronet. Merci à Céline Geoffroy, Béatrice Leca et Marie Placet pour le poème du jour. À Cyril Baer, Inès Duperron et Romain de Bec de Lièvre qui pensent et préparent cette émission avec moi. Une émission réalisée par Miss Anne-Laure Chanel.